Actu SF, les podcasts.
Bonsoir. Donc léger changement d'ambiance puisqu'on va passer du monde de la magie au monde très concret de l'espace dans notre univers qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas régi par la magie, mais on verra peut-être qu'avec vous ça va changer. Donc on va s'intéresser aux créatures extraterrestres, voir comment on peut les inventer, etc. Donc pour resituer un peu dans le monde réel, faut savoir que le télescope spatial Kepler a été mis en orbite en 2009. Il était destiné à repérer des exoplanètes et la première qu'il ait repérée de type terrestre, il ne l'a repérée qu'en 2011. Elle était toute proche de son Soleil. A priori, la moitié de la planète qui, face au Soleil, était en fusion, etc. Donc peu propice à la vie. Depuis, on en découvre deux à trois par jour. Une tous les deux à trois jours. Donc on en a plus de 4000 exoplanètes. Mais toujours pas d'extraterrestres. Donc c'est pour ça que les mieux placés pour en parler jusqu'à ce que les successeurs de Kepler fassent des progrès sont les auteurs de science-fiction. Nous allons commencer par Daniel Martignol. Martin Eagle. Contrairement, alors j'allais dire qu'il y a
eu... Normalement, je devrais avoir deux LE.
Voilà, deux LE, effectivement, sur le... Voilà.
Donc... Oui, avec deux L, on vole plus haut quand même.
Donc, parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits, deux se prêtent assez bien à cette conférence, c'est Les Abîmes d'Outre-mer et Les Réfugiés de Vulcain.
Oui.
D'Outre-mer, voilà.
Oui.
Voilà, donc... Alain Grousset, pareil, vous avez été d'ailleurs complice un petit peu sur certains ouvrages, mais l'un d'entre eux qui parle de... Alors, comment en parler sans dévoiler le twist, mais La Citadelle du Vertige, c'est vraiment cette histoire de conquérir l'espace et voilà. Loïc Henry, donc, qui notamment dans Loar... raconte une histoire de l'humanité qui est dispersée à travers la galaxie. Et puis, avec Les Océans Stellaires, un excellent roman jeunesse, développe une façon assez originale de voyager dans l'espace. Et Jean-Claude Duniac, qui a certes sorti ce livre il y a quelques temps, parmi d'autres, mais bientôt, celui avec les extraterrestres rigolos sort dans...
Enfin non, c'est vrai que c'est un space opéra qui s'appelle 3 hurrahs pour Lady Evangeline qui sort le mois prochain justement, 3 semaines près, vous l'aviez ici, c'est bête.
Donc ce que j'ai envie de pour un peu se mettre dans l'ambiance, c'est-à-dire je voudrais vous demander aux uns et aux autres quel est votre extraterrestre de cinéma ou de fiction plus grand public, on va dire, quel est votre extraterrestre préféré ou alors celui qui vous marque le plus.
Je commence. Alors moi, mes extraterrestres chouchous adorés au cinéma, ce sont les cloneurs dans Star Wars, les extraterrestres de la planète Kamino. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont très grands, très minces, très élégants. Ils ont une démarche extrêmement fluide. Enfin bon, je sais qu'ils m'ont marqué à vie le jour où j'ai vu cette représentation d'extraterrestres qui sont finalement quelque part humanoïdes parce qu'ils ont un corps avec... avec une tête, des membres, et puis comme nous, mais ils sont à la fois tellement fascinants et différents que je les garde comme mes iti chéris.
Moi, je suis très déçu en fait par les extraterrestres représentés dans le cinéma, parce que comme tu dis, ils ont un côté soit humanoïde, soit terrestroïde. En fait, si vous regardez Avatar, par exemple, si vous avez fait un peu de plongée, vous apercevez que beaucoup de choses qu'on voit dans Avatar, ce sont des poissons que vous voyez au fond de... Dès que vous allez un petit peu à 20 mètres ou à 30 mètres, vous voyez ce genre de bestioles, et qu'il a transformé en animaux terrestres. Mais il n'y a pas véritablement l'étrangeté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses tout à fait étranges. Des extraterrestres sont tellement différents de nous qu'à la limite, le contact est très difficile. Ça peut être des nuages de particules intelligentes, ça peut être des écologies entières qui sont devenues, sinon conscientes, du moins proto-conscientes. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et ça, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Donc, j'ai fini par les écrire.
En fait, moi, je suis content que Jean-Claude, pardon, ait fait cette remarque parce que je suis complètement en phase avec ça. C'est-à-dire que je réfléchissais en même temps que tu posais la question. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun extraterrestre qui m'a vraiment marqué parce que la majorité d'entre eux sont des projections finalement anthropomorphiques soit de l'humain, soit de créatures qui existent sur Terre. Et dans la majorité des cas, ça me paraît relativement incohérent, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ces planètes aient des caractéristiques qui soient très différentes de celles de la Terre, et le fait de les imaginer semblables à quelque chose d'existant, moi, ça me parle pas trop. On pourrait imaginer, alors c'est ce que je fais sur une des espèces dans les océans stellaires, on pourrait par exemple imaginer que la conscience soit répartie entre plusieurs éléments. C'est-à-dire que, je sais pas, vous ayez une entité qui soit dispersée en plusieurs sous-entités et que finalement la conscience globale vienne de la somme de ces sous-entités. Il y a plein de choses. Jean-Claude parlait de nuages, il y a plein de possibilités de ce type-là. Je fais juste une petite correction sur les océans stellaires. C'est pas un roman jeunesse, malgré la couverture. C'est un roman adulte, juste pour corriger.
Moi, j'aime les extraterrestres, mais j'aime en plus les extraterrestres déviants. C'est ça qui m'intéresse. Et pour moi, par exemple, Predator est un gros con de chasseur qui veut tuer un lion en Afrique. Et bien là, c'est pareil, il vient sur Terre pour essayer de tuer un humain, pour avoir ça sur son tableau de chasse. Donc ce qui me plaît, c'est l'extraterrestre, mais en plus déviant. Et ça, je pense que c'est un thème assez intéressant. Voilà.
Donc, heureusement que Schwarzenegger est là pour leur mettre une patate.
Ah ben, oui, bien sûr.
Halte à la déviance. Comme dirait Schwarzenegger. Là, vous soulignez le fait que la science-fiction, ça permettait finalement d'imaginer des concepts complètement délirants, puisqu'on les a jamais vus, peut-être finalement. D'ailleurs, peut-être qu'ils existent réellement. Donc là, je pensais par exemple aux abîmes d'autres mers. Là, ça vous permet d'inventer finalement un type d'extraterrestre qui, comme vous le disiez, se conçoit complètement différemment, c'est-à-dire ces sortes de vaisseaux habités.
J'ai vu Pierre Bordas juste avant d'entrer, je lui demandais de me rappeler le nom de ces extraterrestres dans un de ses romans de la série Roel qui m'avait profondément marqué. Il me disait que c'était le Levant, ça s'écrit, il m'a dit L-E-V-A-N-T, et cet extraterrestre c'était justement ce genre de personnage, sorte de cétacé de l'espace, les grandes baleines spatiales, etc. Et ça m'a tellement marqué quand j'avais lu le roman de Pierre que j'ai eu envie d'utiliser cette image d'extraterrestre. Donc je rends à Pierre Bordas ce qui lui appartient. Je n'ai rien inventé. Il y avait aussi eu un autre roman qui s'intitulait Baleinier de l'espace, où il y avait déjà aussi cette relation entre très très beau. C'était Baleinier de la nuit. C'est Baleinier de la nuit. Une très belle relation d'osmose, comme moi je l'ai décrit dans Les Abîmes, entre l'humain et son vaisseau, en fait, qui est, on pourrait dire, un animal, mais qui est bien au-delà de l'animal.
Oui, voilà, c'est, vous dépassez finalement l'analogie avec ce qui existe sur Terre. D'une part, à travers l'invention d'un être vivant qui est à la fois être vivant et véhicule.
Oui.
Et en même temps, qui peut entrer en osmose avec son
pilote. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que qui dit vaisseau spatial dit en général quand même pilote. Hein, et pour les abîmes d'outre-mer, l'idée m'est venue tout à fait comme ça, sans doute avec les souvenirs justement de cet être créé par Pierre Bordas, mais j'étais sur les murs de la citadelle de Québec, au-dessus du Saint-Laurent au Québec. Et j'ai vu passer les gros bateaux qui remontent jusqu'au port de Montréal, carrément. Et puis, la veille, j'avais vu des baleines dans le Saint-Laurent. Et c'est comme, enfin, quand on me dit quelquefois comment naissent les idées de science-fiction, moi, je peux vraiment, là, je date vraiment la naissance des abîmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si ce que les bateaux transportent en surface était transporté par les baleines en dessous? Et voilà, tout simplement, l'idée est venue comme ça de créer ces vaisseaux. Mais bon, oui, vaisseaux, pilotes humains, il faut quand même des personnages humains aussi pour faire une histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de cette osmose entre les jeunes abîmes et puis les jeunes humains. Une espèce de choix tacite, une reconnaissance, l'imprégnation dont on parle beaucoup aussi en éthologie.
D'accord.
Il y a une chose aussi, tu as parlé de planètes extrasolaires, donc de possibilités. Effectivement, c'est vrai qu'on en découvre beaucoup et que, d'une certaine façon, on sait que la galaxie est peuplée, enfin, contient énormément d'étoiles et qu'une proportion non négligeable de ces étoiles ont des planètes et qu'un certain nombre de ces planètes peuvent abriter la vie telle qu'on la connaît. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans le système solaire lui-même, on est en train de se poser des tas de questions en disant certains endroits peuvent abriter des formes de vie, pas nécessairement des civilisations, mais des formes de vie peut-être du niveau d'un coquillage ou même d'algues unicellulaires. Et on se dit que, par exemple, la planète Jupiter ou un certain nombre de satellites, soit de Mars, soit de Saturne, etc., sont susceptibles d'abriter des espèces dont on ne sait rien, mais qui sont parfaitement viables dans un milieu qui n'est pas du tout déconnant. Parce que le Jupiter, qui est une espèce de proto-étoile, est constitué de couches de gaz, et à certains moments, vous avez des températures, je dirais, comprises entre 0 et 100 degrés, et vous avez des pressions qui sont des pressions parfaitement admissibles pour des êtres humains tels qu'on les connaît. Donc, pourquoi ne pas imaginer que dans ces couches-là, il y ait des variétés de trucs ? Vous avez beaucoup de livres de science-fiction récents qui en parlent, qui vous disent qu'il y a des espèces d'énormes méduses, de civilisations comme ça. Vous avez des planètes, des satellites comme Io et autres, dans lesquels on dit, OK, il y a une couche de glace sur le dessus, mais en dessous, il y a de l'eau liquide. Et de temps en temps, il y a une éruption, donc il y a un jaillissement d'eau liquide qui gèle immédiatement à la surface. Ça fait des espèces de geysers gelés, là, imaginez un grand jet. Mais on se dit, s'il y a des bestioles là-dedans, s'il y a ne serait-ce des petits coquillages ou du plancton, ben, il suffit d'explorer les trucs à la surface qui sont des éruptions, on en trouvera, coincés dans la glace. Donc on commence à préparer des expositions pour aller voir ça, puisqu'on s'y est déjà posé sur ces trucs-là. On sait y aller. Et donc on se dit qu'après tout, on va peut-être trouver des formes de vie qui sont extraterrestres, mais qui sont voisines. On en trouvera certainement plus loin aussi. Puis à un moment donné, il y a un problème, je dirais presque mystique, religieux, parce que nous avons vécu, suivant des religions du livre, qui disent « Dieu a créé l'homme à son image, n'importe lequel, des dieux, plein, et il l'a créé ici, et à la limite, on n'entend jamais parler des autres. Donc si les autres apparaissent, on va leur dire « Mais quel est le Dieu qui vous a créé, vous? Est-ce que c'est le même que le nôtre? Et puis, quel est le niveau de hiérarchie entre vous et nous ?» Parce que ne pas oublier que dans le livre, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur l'Ancien Testament, etc., ou le Coran, enfin les religions du livre, vous avez à un moment donné Adam qui nomme les animaux. C'est-à-dire qui dit l'homme est au sommet de la création, il ne fait pas partie de la nature, il est celui qui nomme, celui qui possède. C'est aussi un petit peu la raison pour laquelle les évangélistes américains ont tellement de mal avec l'écologie, parce qu'ils disent, après tout, on est là, on est les patrons, quoi. Donc le fait que les écologies meurent, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est que nous, on est les gens qui sommes au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et on se pose la question de se dire, si il y a une planète très lointaine dans laquelle une civilisation comme la nôtre est apparue, mais il y a, mettons, ne serait-ce que 10 000 ans, eh ben, on l'a loupée. Et on ne pourra jamais savoir s'il y en avait une ou pas. Et donc la question de savoir si on estime qu'il y en a une ou pas, ben, c'est une espèce de croyance. Vous avez des gens qui croient pertinemment qu'il y a des civilisations d'un niveau comparable à la nôtre dispersées à travers la galaxie, mais à des endroits tellement lointains que le temps qu'on y arrive, ils sont plus là. Ou alors des gens qui vous disent « c'est pas vrai, il n'y a que nous ». Le jour où on tombe sur ne serait-ce que des coquillages sur une planète extérieure ou sur un des éléments du système solaire qui n'est pas la Terre, à ce moment-là, on va être obligé de changer notre fusil d'épaule. Et ça m'intéresse. Mais après, imaginez un extraterrestre différent de nous. Bah, il faut aller vraiment chercher très loin, quoi.
Oui, parce que se pose la question. Pardon.
T'as bien fait de dire changer le fusil d'épaule, parce que les humains, dès qu'ils vont retrouver un extraterrestre, ils vont changer leur fusil d'épaule pour tirer sur ces mecs-là. Oui, bien sûr.
Parce que se pose la question justement de la différence entre les espèces de notre éventuel qui peuplent notre système solaire, qu'on pourrait éventuellement venir observer dans un temps raisonnable. Le problème qu'il faut rappeler avec les exoplanètes, c'est qu'elles se trouvent à des distances tellement incommensurables que les images qui nous parviennent d'elles datent, la lumière qui nous parvient d'elles et qui nous donne une image date de milliers, voire de millions d'années. Et donc éventuellement l'image, les indices dans l'atmosphère qui indiqueraient que se trouve une civilisation extraterrestre daterait de millions d'années également, donc la civilisation aurait sans doute déjà disparu. Donc, on se pose la question si on devait aller faire la paix ou malheureusement la guerre, il faudrait employer des moyens de transport tels que dans les océans stellaires par exemple, où il faut zapper cette phase voyage pour aller voir les extraterrestres finalement.
En fait, dans la majorité des espèces opéra, on trouve un peu un raccourci, c'est-à-dire que évidemment, on ne peut pas en 15 jours aller à un endroit qui se trouve à je ne sais pas combien d'années-lumière. Donc il y a plusieurs trucs ou plusieurs méthodes. Et la plus courante, c'est une variation sur les trous de ver, à savoir une espèce de passage secret qui vous permet d'aller d'un endroit à un autre. Alors vous pouvez appeler ça courbure de l'espace, trou de ver, comme vous voulez. Dans le cas des océans stellaires, en deux mots, c'est en fait des seuils qui se trouvent dans les abysses des océans. Et c'est ainsi que la colonisation spatiale s'est déroulée. C'est-à-dire qu'il y a un premier seuil qui a été trouvé dans les abysses de la Terre, qui a mené vers les abysses d'une autre planète. Ces abysses de cette autre planète contenant elles-mêmes des seuils qui ont mené vers les abysses d'une deuxième, troisième, quatrième, cinquième planète, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'homme a colonisé l'espace. Donc c'est une espèce de space opéra sans space, ou un water opéra, appelez ça comme vous voulez. Mais bon, en tout cas, en effet, l'homme a colonisé de cette manière-là. Et en effet, pour répondre à ta question, à un moment donné, il va y avoir un contact entre l'humanité et des espèces intelligentes qui ne sont pas humaines. Et ce que j'ai choisi comme vision, c'est de dire, en fait, sur Terre, il n'y a qu'une seule espèce dominante, c'est l'homme. Il n'y a pas une compétition entre deux espèces dominantes. Alors évidemment que les requins sont plus à l'aise que nous dans l'eau, et les aigles dans l'air, mais n'empêche qu'il n'y a qu'une seule espèce dominante sur la Terre. Si on part du principe que sur une autre planète, ce qui est un principe a priori absurde, on part du principe qu'il y a plusieurs espèces dominantes, et que chaque espèce dominante a un avantage concurrentiel dans son espace. Si vous prenez l'exemple de la Terre, je sais pas, une espèce dominante dans la jungle, dans les forêts, une autre dans les déserts, une autre dans l'eau, une autre sur la glace, ainsi de suite. Dans ce cas-là, le développement de cette planète, quelque part, va être conditionné au fait que pour se développer en dehors de son environnement naturel, il faut qu'il y ait une coopération. Parce que l'avantage compétitif que vous avez dans votre environnement, vous le perdez dès que vous allez dans l'environnement d'une autre espèce dominante. Donc soit chaque espèce dominante se développe uniquement dans son environnement, soit au bout d'un moment, elle se développe en coopération avec les autres espèces dominantes, puisqu'elles ne peuvent pas les dominer dans leur environnement propre. Et si on imagine à un moment donné qu'il y a un contact entre une espèce, l'homme, qui, elle, est issue d'une planète où il y a une seule espèce dominante, et de l'autre, des planètes où le développement s'est finalement axé sur la coopération, vous avez d'un côté un modèle coopératif, et de l'autre, vous avez un modèle, on va dire, compétitif, au sens où finalement l'homme s'est développé en étant en compétition d'abord avec la nature, et puis surtout très très vite avec d'autres hommes, d'autres tribus, d'autres groupes, d'autres nations, d'autres pays, appelez ça comme vous voulez. Et si jamais vous imaginez ce contact, ça ne me paraît pas complètement incohérent de penser que le réflexe premier de l'homme, ce serait d'avoir un réflexe qui soit similaire à celui qu'il a toujours développé et celui qui est issu de millénaires d'évolution. Donc plutôt un réflexe d'agressivité. À l'inverse, on peut imaginer que si vous rentrez en contact avec une planète où les civilisations sont développées par la coopération, que leur première a priori soit plutôt sur une coopération avec une nouvelle espèce qui arriverait d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, on peut imaginer, pour reprendre le point du fusil de l'épaule de tout à l'heure, qu'en effet, le contact soit peut-être un petit peu difficile, si effectivement on a un contact de ce type-là, entre l'espèce compétitive humaine et l'espèce ou les espèces coopératives qu'on peut trouver. Voilà, c'est ce que j'explore un petit peu dans les océans stellaires.
Ceci dit, on est quand même en compétition avec des virus qui sont très forts quand même aussi, et que peut-être... Les extraterrestres sont déjà parmi nous, et ce sont eux qui sont là, et les virus...
Oui, c'est vrai. Donc... Oui, ça, la notion de domination est plus civilisationnelle, quoi, mais finalement, les bactéries, les virus sont super efficaces sur Terre également.
Ce qui est intéressant de cette pensée, donc justement, parce que dès qu'un l'humanité va sur une autre planète, c'est lui, l'extraterrestre. Hein, il arrive et on fait partie des prédateurs, il n'y a aucun souci, et surtout si la planète nous intéresse du point de vue richesse minière ou autre, on fera le ménage, hein, il n'y a aucun problème. Nous sommes vraiment une espèce vindicative et on fera table rase de tout ce qu'on va trouver, sauf si on tombe plus fort que sur nous.
Oui, puis il se pose la question justement là des virus, bactéries, etc. La question de la viabilité aussi d'une autre planète pour l'homme est problématique, quoi, parce que dans Star Wars, on se promène tranquillement de planète en planète, tout est respirable, tout a la bonne gravité, etc. Mais les conditions peuvent être extrêmement variables. Pour en revenir à cette première exoplanète découverte, là, imaginez que l'homme puisse envahir cette planète à moitié en fusion, c'est compliqué. En revanche, est-ce que ça vous inspire une planète comme ça qui pourrait, est-ce que vous pensez que ça puisse abriter une forme de vie extraterrestre amusante?
Oui, parce que d'un côté, il fera très froid, de l'autre côté, très chaud, puis il y aura peut-être une bande de 2 km où ça sera à peu près viable. Et donc, les gens vivront sur cette planète en tournant, quoi.
Ah ouais, voilà, bon, on a nos extraterrestres express. C'est aussi facile que ça.
Les demandes, c'est tout, demandes.
Alors, j'en ai une autre, justement, c'est une exoplanète, une des plus fascinantes. À l'heure actuelle, qui a été décrite, alors elles sont décrites que par des signes très fins de leur atmosphère. Ouais, on suppose qu'elle a une pression telle et qu'elle a une atmosphère tellement riche en carbone qu'il y pleuvrait des diamants.
Mon épouse va s'y installer tout de suite. Peut-être pas plus de 15 jours, mais elle va...
Donc vous avez épousé une extraterrestre?
Quelqu'un qui aime les diamants. Oui.
S'il pleut des diamants, il va falloir revoir la technologie des parapluies quand même.
Oui. Donc oui, là, c'est plus seulement les extraterrestres, mais...
Oui, mais on a tendance à oublier quand même une chose, c'est que la Terre connaît de la vie depuis 1 milliard d'années. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, ça sort dans ces eaux-là. Et on en est à la 4e extinction majeure d'espèces, et on se prépare à la 5e d'ailleurs. Et on a connu sur Terre tout un tas de formes de vie qui ont vécu dans des conditions de température, de pression, etc., qui nous tuerait instantanément, et dans lequel la vie s'est développée jusqu'au niveau d'un coquillage, par exemple. On a des tas de fossiles qui datent de 400, 500, 600 millions d'années, qui sont des trucs élaborés, mais qui vivaient à une époque où, je sais pas, où il n'y avait pratiquement pas d'oxygène, où il pleuvait pendant des millions d'années, où la température était très élevée, ou au contraire très basse à certains endroits. Alors on a vu des formes de vie se développer jusqu'à des niveaux multicellulaires complexes, dans des conditions invraisemblables. On en voit au fond de l'eau. Il y a de la vie qui vit auprès des cheminées qui crachent du soufre. On a vu des espèces qui sont sur Terre, qui ne sont pas basées sur l'ADN, mais sur autre chose. Ben, on a déjà... À l'intérieur de notre propre biosphère, on a une quantité phénoménale de formes de vie avec lesquelles on ne peut strictement rien faire. On ne peut même pas les manger, on peut même pas. Enfin, on est dans une situation d'étranger absolu. Et ça pourrait quand même nous inspirer, et ça pourrait au moins nous inspirer une espèce de confiance dans le fait que la vie veuille vivre à peu près partout. Tu parles de ta planète avec un machin qui est brûlant et un autre, etc. Mais il y en a plein de planètes comme ça. Il y a plein de planètes aussi. Le problème de la recherche des planètes extrasolaires, c'est que souvent, pour les repérer, il faut qu'elles soient grosses. C'est qu'on trouve des planètes qui sont 4, 5, 10 fois le diamètre de la Terre. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on ne les voit pas, on n'a pas encore réussi à les voir, on n'a pas la loupe assez fine, que les planètes de type terrestre existent. Au contraire, les modèles mathématiques de ce qui se crée quand il y a un système solaire montrent qu'il y en a fatalement une ou deux. Alors après, pour qu'il y en ait une ou deux dans ce qu'on appelle la zone de viabilité, c'est-à-dire la zone de distance de l'étoile où c'est moins que 100 degrés et plus que 0 degré, pour que l'eau soit à l'état liquide, c'est une espèce de postulat. Si l'eau est à l'état liquide, il y a de fortes chances que la vie apparaisse. Ben, ça, on sait quand même qu'il y en a plein. Mais après, à quoi ça peut ressembler, on n'en sait rien. Si en plus on réfléchit à une théorie comme ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire le fait qu'une espèce va se propager dans l'espace, même sous forme de spores, que les spores vont arriver quelque part, se développer, donner un nouvel écosystème avec des mutations et que ça va recommencer, bon, que la Terre serait probablement née d'un crachat d'extraterrestres, hein, pour reprendre le truc, eh bien oui, pourquoi pas. À ce moment-là, on se dit, on a plein de variétés possibles. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain de science-fiction, c'est pas de savoir qu'il y en a, je sais qu'il y en a, c'est qu'est-ce que je peux bien leur demander. Si vous tombez sur une civilisation, entre guillemets, élaborée, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Elle n'est pas comestible par rapport à vous, elle ne fabrique pas de choses intéressantes. En plus, si vous êtes déjà arrivé à un niveau où vous la connaissez, ça veut dire que vous êtes capable de prospecter l'espace, et à ce moment-là, il y a tout ce que vous voulez dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de choses. Donc, on peut échanger deux choses, de l'information et de l'art. L'information, à condition de trouver un moyen de la transmettre, et de l'art, à condition de trouver un moyen de l'apprécier. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut échanger.
Une religion, peut-être.
C'est que d'une forme d'information, hein. Ou de désinformation.
Ou d'art. Donc justement, sur là, tu évoquais les liens avec les extraterrestres. C'est intéressant parce que finalement, on arrive sur une Loïc parlait de la d'une sorte de compétition finalement entre, enfin, compétition ou collaboration d'espèces différentes sur une même planète, etc. Se pose la question effectivement de formes tellement différentes que le contact est difficile ou voire impossible. C'est est-ce que cette notion de contact justement, est-ce que c'est quelque chose qui pour un romancier peut être quelque chose d'intéressant à explorer?
Le contact, ça me paraît en effet quelque chose de très intéressant à explorer. Maintenant, là, je rejoins Jean-Claude. C'est-à-dire que si on ne projette pas un humanoïde un petit peu en mode avatar qu'on va rencontrer, ce qui est quand même une chance incroyable qu'on tombe sur un extraterrestre et qui, pouf, par hasard, il soit humanoïde. C'est quand même...
Qu'il ait deux bras et deux jambes.
Sur
Terre, c'est rare déjà.
Ouais, c'est un peu improbable. Donc, en effet, la question du contact, elle est passionnante, d'une part d'un point de vue scientifique et d'autre part d'un point de vue littéraire en tant qu'auteur de science-fiction. Maintenant, l'idée du langage, du contact en termes de communication, on se doute bien que le premier contact, ce sera un contact qui sera extrêmement limité. C'est-à-dire, et en plus, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer un contact avec une espèce vivante à un contact avec une espèce intelligente. Pour reprendre l'image de Jean-Claude, si vous allez sur une planète et que vous trouvez un bigorneau, c'est incroyable comme découverte. Mais en même temps, le contact et la communication risquent d'être assez limités. Et encore, un bigorneau, c'est quelque chose qui est proche de quelque chose qu'on connaît dans le terrestre.
Tu sauras que la Bretagne a essaimé.
Voilà, c'est ça. Bon, là, j'en profite. Hein, je suis toujours à mon côté un peu... missionnaire breton, mais c'est vrai que on peut imaginer des choses qui soient des espèces de bigorneaux, mais vaporeux, ou des choses comme ça, où là, en effet, le contact soit complètement impossible. Mais encore une fois, il y a deux niveaux. Il y a le vivant, ce qui est déjà un pas immense. Alors Jean-Claude est convaincu que ça existe. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Et après, le niveau supplémentaire, le niveau d'ensuite, c'est, ok, est-ce que ce vivant débouchera quelque part et sur du vivant intelligent. Mais ça, c'est un pas immense entre les deux.
Qui développe une civilisation.
Voilà.
Bon, là, on est dans la problématique des auteurs de science-fiction. Là, nous avons deux exemples d'extraterrestres qui adorent la hard science et qui, justement, se heurtent à la science pour essayer d'inventer leur série. Mais nous, en jeunesse, on s'en fout complètement. Justement, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas faire des récits ultra complexes sur ça. Et ce qui est intéressant avec l'extraterrestre, c'est le contact, justement, avec des créatures dans lesquelles on va pouvoir parler, échanger. Mais c'est quoi, en fait ? C'est montrer la rencontre avec l'étranger. Si ça se passe bien avec l'extraterrestre, c'est montrer aux jeunes que ça doit bien se passer pour le racisme, par exemple. On ne peut pas avoir d'a priori, fait sa vie des autres. C'est ça qui est intéressant pour l'extraterrestre. C'est la symbolique derrière l'extraterrestre, et non pas sa faisabilité, quelque part, sa crédibilité. Quoi.
D'accord, c'est un humain, finalement,
déguisé. C'est un humain, et toute la problématique de l'autre, la rencontre avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui tape dessus, ou on essaye d'échanger et d'être plus intelligent de ça. C'est ce qui m'intéresse, moi, dans l'extraterrestre.
D'accord. Bah, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour justement continuer du côté de la jeunesse, c'est dans Les Oubliés de Vulcain, les extraterrestres sont des humains, finalement, parce que dans une planète, il n'y est pas là. Dans une planète, dans une galaxie peuplée par des humains où les planètes sont séparées les unes des autres, bah, finalement, les humains qui peuplent certaines planètes vont diverger. C'est aussi des figures de l'autre ou...
C'est l'image de la colonisation, en fait. Hein, c'est-à-dire que si des humains partaient s'installer sur d'autres planètes, à un moment ou à un autre, il faudrait quand même bien qu'ils s'adaptent à la planète, même s'il n'y a personne d'autre qui vit, pour avoir du relationnel, de la discussion, etc. L'environnement autour d'eux va conditionner leur comportement, c'est inévitable. Et donc nous, Alain et moi, nous avons écrit un roman qui s'appelle L'Enfant Mémoire, où il est question d'un jeune homme, en fait, qui a une particularité, c'est qu'il a à l'intérieur de son cerveau un cristal mémoire enchâssé, et donc il n'oublie absolument rien de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il entend, etc. Le jour où notre petite terrienne qui part pour quitter la Terre, pour aller avec ses parents, parce que en déménagement, en fait, hein, son père est nommé sur la planète au centre de la galaxie, responsable d'une grande bibliothèque universelle où sont réunies toutes les connaissances des différentes races, justement. Nundia, elle est comme toutes les gamines qui déménagent. Elle est triste, elle a perdu tous ses copains, copines, etc. Et elle se trouve tout à fait par hasard confrontée à ce jeune extraterrestre que nous avons appelé Ocrine. Et qui est, elle a oublié son notebook entre deux coussins d'un salon, du siège d'un canapé du vaisseau spatial qui la transporte. Et elle le voit avec son aspect un peu différent des autres. En train de lire à toute vitesse, en faisant défiler les pages à une telle allure que de toute façon, elle se dit c'est pas possible qu'il ait lu, qu'il lise. Enfin, elle lui dit vas-y, fais comme chez toi, te gêne pas. Alors bon, il la regarde, il lui rend son notebook, et là, il lui dit c'est très beau ce que tu écris, et il se met à lui réciter un de ses poèmes vraiment mot pour mot. Et donc elle a le choc de voir un être différent qui s'intéresse quelque part à ce qu'elle fait. Et lorsqu'il va disparaître pour des raisons X, parce qu'il est considéré comme un dieu vivant dans son propre monde, elle a senti d'emblée que ce garçon-là, il était différent, mais qu'en même temps, il était demandeur de contact avec elle en tant qu'humaine. Et elle va partir à l'aventure pour essayer de le retrouver, etc. Et nous, ce qui nous intéresse par le biais de cet extraterrestre, c'est de montrer à nos jeunes lecteurs qu'ils peuvent voir quelqu'un qui est différent physiquement, une autre couleur de peau, une autre langue, et qu'il ne faut pas avoir cet a priori de dire il est différent, je n'ai pas envie d'aller vers lui. Donc, nous, ce que nous combattons, c'est tout simplement le racisme, l'exclusion, etc., à travers la personnalité d'un extraterrestre qui sait interpeller et séduire notre petite héroïne. Et c'est vrai que c'est ça que nous avons essayé de faire à chaque fois que nous avons créé des extraterrestres, nous. De ramener, en fait, nos jeunes lecteurs à un comportement humain de tolérance, d'ouverture d'esprit, etc. Parce que si on réfléchit bien, nous appréhendons l'univers autour de nous uniquement avec nos cinq sens. Hein, parce que le sixième sens, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas encore bien prouvé, cette affaire-là. Et qu'est-ce qui nous dit qu'un extraterrestre en face de nous, qui aurait des sens différents, pourrait vraiment communiquer avec nous? Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'image de l'extraterrestre. Et je tiens juste à préciser une chose. J'ai un ami astronome qui m'a toujours beaucoup aidé pour la construction de mes planètes extraterrestres, parce que j'en ai créé pas mal. Elles sont toutes monotaches. Hein. Il y a la planète maritime, la planète forestière, la planète désertique, la planète poubelle, etc. Ce qui est absolument incohérent et tout à fait illogique avec la conception même d'une planète. Mais un jour, je lui disais où est-ce qu'on trouve de l'eau ? Il m'a dit c'est l'inverse qu'il faut se poser comme question. C'est où est-ce qu'il n'y a pas d'eau ? Voilà. Apparemment, il y en a vraiment beaucoup dans toutes les exoplanètes qu'on trouve là.
Dans le Beaujolais. Oui, moi j'ai écrit un bouquin avec Suzy Morgenstern qui s'appelle Tout amour est extraterrestre. Et c'est une jeune fille qui découvre que son père est un extraterrestre. Il n'est pas là, il est reparti. Et la seule différence, c'est qu'à son adolescence, il se passe quelque chose, c'est que génétiquement, elle va changer de sexe. Parce que dans cette société-là, on change de sexe à l'adolescence, on expérimente les deux sexualités, puis après, soit on revient en tant que fille, soit on reste en tant que garçon, ça dépend ce qui nous intéresse. Et donc, du jour au lendemain, elle devient un garçon. Donc à l'école, son meilleur petit copain est très très attiré par ce garçon-là et ça l'inquiète vraiment. Enfin, c'était pas ses orientations sexuelles. Sa meilleure copine tombe follement amoureuse de ce garçon-là, forcément. Et donc c'est toutes ces problématiques d'adolescents. Et en définitive, on parle de la transsexualité par le biais de la science-fiction. Et ce genre de livre passe. Il ne passerait pas si on vraiment le traitait au réel aujourd'hui.
Voilà. Alors du coup, ça, là où on est en terre plus de fantaisie, les imaginales, c'est quand même essentiellement la fantaisie, etc. Et c'est vrai, et de la science-fiction, voilà, les deux se confrontent. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est à travers la figure de... On peut se poser la question de l'usage qui est fait, que vous décrivez par les auteurs en science-fiction. c'est un usage qui n'est pas le même que l'usage qui est fait des créatures en fantasy, finalement.
C'est différent, disons. Quand tu te prends une créature extraterrestre dans un livre de science-fiction, en général, ce que tu essaies de comprendre, c'est une nouvelle façon de penser, et une nouvelle façon de voir le monde, et une nouvelle façon de se représenter ce que l'on est soi-même. C'est ça, l'extraterrestre, c'est ces questions-là. Quand tu prends un personnage de fantasy, c'est un personnage de croyance. À quoi croit-il? Comment voit-il le monde? Comment se perçoit-il à l'intérieur du monde en tant que complexité? Et donc, les elfes sont beaucoup plus en rapport avec le bois, avec la nature, etc. Les dragons sont ceci. Enfin, il y a toutes ces questions-là, mais à chaque fois, la question, c'est comment suis-je perçu et comment est-ce que je me perçois moi-même à l'intérieur d'un environnement pour lequel j'ai une explication qui est due à ce que je suis, à ce que je ressens, etc. etc. D'accord. Le problème, c'est quand tu prends un extraterrestre qui est constitué, par exemple, d'un nuage d'éléments intelligents qui se rassemblent pour former des supra-intelligences ou au contraire qui restent à bas niveau, c'est qu'est-ce que je vois. Quand tu prends un extraterrestre qui est une ruche, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ressent? Tu vois, ça, ce sont des questions. Quand tu prends un extraterrestre humanoïde vivant sur une planète plus ou moins semblable à la nôtre, tu peux penser que leur vision de l'environnement est assez proche de la nôtre. Donc, on peut parler de ça. Mais tu as du mal à le faire avec une intelligence qui est différente. Une intelligence qui ne repose pas sur les mêmes sens, qui ne repose pas sur la même perception de soi, et pour lequel un certain nombre de nos problématiques sont complètement différentes. Mais il ne faut pas se oublier, des intelligences comme ça, il y en a plein sur Internet. Vous essayez de discuter de certains nombres de sujets avec des trolls, vous avez des gens qui, visiblement, comprennent rien à ce que vous comprenez, vous. Et inversement aussi. Donc, les extraterrestres, c'est facile à trouver. Mais par contre, quelqu'un qui vous dit « ma vision du monde, je peux arriver à te la transmettre sous certaines façons », c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà établi un contact. Sinon, vous avez deux phares qui se croisent dans la nuit, mais qui ne se disent rien. Et j'ai peur que la première rencontre et que les rencontres suivantes avec des extraterrestres, ça soit ça, qu'on n'ait rien à se dire, tout simplement.
Ouais, ce qui serait tragique. tu veux... donc du coup, ce que je comprends, c'est que la conception... On ne peut pas envisager de créer des créatures à la façon dont les auteurs de science-fiction, que ce soit en jeunesse ou en plus en hard science, on peut pas imaginer ce genre de créatures dans un univers de fantasy pour raconter des
histoires. Il y a des romans où les humains arrivent sur une planète où la magie règne. À ce moment-là, c'est toujours la magie qui gagne.
D'accord, il y a une perméabilité des deux, des deux genres.
Il y a ce qu'on appelle la mythopoïèse, c'est un terme très compliqué, mais qui dit grosso modo l'ensemble des mythes et des croyances qui font qu'une espèce comprend le monde dans lequel elle se déplace. Il ne faut pas oublier que si vous parlez à un être humain d'il y a 2000 ans, sa vision n'a rien à voir avec la nôtre. Nous comprenons ce que sont les nuages, nous comprenons ce que sont les éclairs, la pluie, etc. etc. Leur vision est une vision complètement différente. Parce que la vision, entre guillemets, scientifique et mécaniste prouvée que nous avons n'est pas la même que la leur, qui fait intervenir des croyances différentes et des choses différentes. C'est ça une mythopoïèse. Vous regardez ne serait-ce que les tableaux de peinture du 15e et 16e siècle, toutes les explications que vous disent les tableaux, nous ne les comprenons plus parce qu'à cette époque, c'était évident pour telle et telle raison, ça ne l'est plus. D'accord. Donc la difficulté actuellement pour une espèce différente, et une espèce différente, ça peut être l'être humain reculé dans le temps, eh bien, c'est de comprendre une espèce de vision mythopoïétique commune. Comprendre comment on se situe dans le monde et comment on explique le monde autour de soi. Je peux vous dire que j'ai pris l'avion pour aller à Montréal, Paris-Montréal, avec mon camarade Stéphane Marsan, qui est directeur des éditions Bragelonne et qui est une personne qui est un des plus grands éditeurs français, sinon le plus grand éditeur français, de fantasy. Et nous avons parlé du fait que l'avion volait. Ce pour lequel moi, travaillant à Airbus, j'ai une explication parfaitement scientifique, alors que lui, professeur de philosophie et spécialiste de fantasy, avait une explication complètement différente qui faisait intervenir certainement des dragons invisibles à la place des moteurs. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et il m'a dit, la raison pour laquelle je suis un bon éditeur de fantasy, c'est que je suis capable de comprendre l'avion dans une structure mythique qui est une structure de fantaisie, alors que toi, tu vas m'expliquer des choses à base de boulons et de trucs, et donc tu es un bon écrivain, un bon éditeur de science-fiction. Par contre, en fantaisie, tu ne touches pas un caramel. Il a raison. D'accord ? Et la seule fantaisie que j'écris, c'est de la fantaisie avec des boulons. D'ailleurs, c'est vrai. Et donc, d'une certaine façon, ce regard différent, on n'a pas besoin d'aller le chercher chez les extraterrestres, on peut l'avoir chez nous. Hein, c'est clair. Mais l'avantage de l'extraterrestre, c'est que ça nous permet de mettre en place le regard qu'on veut, l'explication qu'on veut, et de la confronter avec notre regard à nous, et ça peut servir de métaphore. L'extraterrestre est une immense métaphore du fait qu'on ne se comprend pas.
C'est vrai que d'une manière générale, enfin, les littératures de l'imaginaire, en général, la science-fiction en particulier, quand vous écrivez un roman, une nouvelle de science-fiction, en fait, vous faites deux choses, que ce soit en jeunesse, en adulte, peu importe. Vous écrivez premièrement une histoire, c'est-à-dire que si vous alignez des concepts scientifiques, ça n'a aucun intérêt et c'est rébarbatif au possible. Donc ça, c'est l'élément numéro un, c'est-à-dire le fait d'écrire une histoire avec des personnages clés, quelque chose qui déclenche un certain nombre d'émotions, une proximité, une peur, une réflexion, ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément, cet élément histoire. Après, il y a un autre élément où la plupart, enfin, en tout cas, c'est le souhait, je pense, de la plupart des auteurs, c'est de faire passer un message ou d'expliquer quelque chose via... comme ce que tu décrivais tout à l'heure. Alors ça peut être des messages comme ceux dont tu parlais, tels que le racisme, la tolérance, comme ce qu'évoquait Daniel, ainsi de suite. Et normalement, une belle histoire de science-fiction, c'est à la fois une belle histoire parce que vous êtes pris par les personnages, il y a des rebondissements, ainsi de suite. Donc il y a un côté d'aventure, entre guillemets, que ce soit de l'anticipation, du space opéra, ça ne change rien. Et il y a une deuxième composante qui est une composante réflexion par le prisme de la science-fiction, dans ce cas-là. Et c'est parfois, paradoxalement, plus simple d'exprimer ou de faire passer un certain nombre de messages sur le monde actuel et réel dans un environnement qui est complètement différent, qui est dans l'avenir, que, pour rejoindre ce que tu disais, que de faire passer le même message dans le monde totalement réel.
Exemple de la science-fiction soviétique, où la science-fiction passait, alors que les thèmes qui étaient traités, s'ils avaient été traités dans le réel, les gars auraient été au goulag dans les demi-heures qui suivaient la sortie de leur livre.
Maximum. Non, mais c'est vrai qu'il y a ces deux composantes-là. Donc, personnellement, en tant que lecteur, un livre de science-fiction qui me fait vibrer, c'est un livre où je retrouve ces deux composantes, c'est-à-dire cette composante histoire, aventure, primo, et deuxio, une composante réflexion. Ça me fait voir le monde d'une manière que je n'avais pas envisagée avant, ça me fait comprendre un certain nombre de choses que je n'avais pas vues, ça m'ouvre l'esprit vers des choses que je n'avais pas perçues auparavant. Et pour moi, ces deux choses sont à la fois différentes, mais indissociables d'une bonne histoire de SF.
Très bien. Donc, je vais vous poser une dernière question avant de passer le micro au public. C'est une question qui repose du coup sur un concept scientifique. Enfin, c'est le paradoxe de Fermi. Ça repose sur l'idée que effectivement, il y a de nombreuses exoplanètes. Nombre d'entre elles portent des signes de vie et une fraction d'entre elles ont également développé des civilisations avancées, lesquelles du coup auraient pu. Coloniser l'espace. Voilà. La question étant, donc, l'hypothèse de base est la galaxie est effectivement peuplée de tas d'extraterrestres. Le paradoxe, c'est qu'on les a jamais vus. Et donc, les scientifiques s'échinent à inventer des hypothèses. J'en ai recensé une quarantaine, je crois. L'une d'entre elles est le zoo humain, c'est-à-dire les extraterrestres sont autour de nous, ils regardent la Terre de loin comme des visiteurs d'un zoo, et surtout ils ne nous dérangent pas parce qu'on est dans notre milieu naturel. Donc j'aimerais vous demander aux uns et aux autres si vous avez une hypothèse sur cette question.
Non, il y a une hypothèse où il y a une sphère de Dyson, c'est ça ? Où les extraterrestres nous enferment dans un espace en disant « trop dangereux l'espèce humaine ». Laissons-les se débrouiller entre eux. Quoi. Donc,
Moi, j'ai une hypothèse en tant qu'informaticien, c'est qu'ils ont mis en place des filtres anti-spam et que tout ce qu'on peut leur envoyer comme message, ça part à la poubelle. Et ils ont parfaitement raison. Hein. Rendez-vous compte quand même que le seul message qu'on leur a envoyé, c'est une espèce de plaque où il y a deux personnages à poil avec « venez nous voir » avec les trucs. Ben, moi, je suis désolé, quand je reçois 100, ça part en spam directement. Il bon, faut les comprendre. Puis, la meilleure preuve, c'est que vous, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Calvin et Hobbes, mais qui est une bande dessinée extraordinaire, où Calvin, le petit garçon, dit « La meilleure preuve que les extraterrestres sont intelligents, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à nous contacter. »
Du point de vue scientifique, nous sommes une petite planète autour d'une petite étoile. Voilà, on est la banlieue lointaine d'une galaxie qui n'est pas très grande, en fait, etc. Moi, je relativise beaucoup les choses. Hein, en fait, on est loin de tout. il faudrait longtemps pour qu'ils viennent, ou etc. Ou alors il faut qu'ils trouvent les bons trous de verre. Je dis toujours à mes jeunes lecteurs, méfions-nous, nous n'avons pas de planète, on n'a pas d'issue de secours, on n'a pas de plan B. Faisons attention à la Terre, parce que finalement, d'ici qu'on rencontre les extraterrestres, je prends toujours un exemple avec mes petits lecteurs qui est très concret. Bon, donc la vitesse de la lumière, mis à part celui qui m'a raconté, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, la vitesse de la lumière, c'est entre l'interrupteur et pour que l'ampoule s'allume. C'est ça, les nouvelles ampoules, effectivement. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, je dis la vitesse de la lumière, 300 000 km la seconde, on claque des doigts, on est sur la Lune. L'étoile la plus proche... Bon, t'es plus scientifique que moi. Moi, je... pour aller à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, il faudrait 4 années-lumière. Je leur dis, vous avez envie de faire un gâteau pour votre maman, vous avez oublié d'aller acheter du sucre ou de la farine, vous allez frapper chez les voisins les plus proches. Il faut, à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire aller en 7 secondes sur la Lune, claquer des doigts pendant 4 ans pour aller frapper à la porte la plus proche. Et si vous passez un coup de fil, c'est pareil, il faut 4 ans pour que ça arrive, ils vous répondent au bout de 4 ans, votre maman elle a déjà vieilli de 8 ans pour vous faire le gâteau, ça va être plus compliqué.
Combien de bougies?
Et donc ça devient extrêmement concret pour eux. Et c'est là que d'un seul coup, effectivement, l'image de l'extraterrestre prend une importance différente, parce que nous sommes là, humains, et qu'il faut qu'on fasse attention à notre belle planète, et que finalement, j'ai rarement lu des romans de science-fiction où il n'y avait que des extraterrestres, pas du tout d'humains. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Creuset du Temps de John Brunner, où il n'y a absolument pas de personnages humains. Ce ne sont que des extraterrestres d'origine végétale qui ont muté, qui sont devenus intelligents. Le roman se déroule à l'époque où ils commencent justement à découvrir l'astronomie et à se rendre compte eux-mêmes qu'il y a peut-être d'autres races et d'autres mondes habités. Et c'est vrai que ça serait très difficile, quelque part, d'imaginer une histoire de science-fiction uniquement avec des extraterrestres. Parce que le référent, c'est nous. Hein,
oui. On sait tout, le lecteur, ramène, en tout on cas, ramène, est l'humain.
On ramène toujours tout à l'humain. Et pour... Et c'est vrai
ça
que pour les jeunes lecteurs, c'est très très important de leur semer comme ça des petites graines dans l'esprit qui feront qu'ils resteront lecteurs de science-fiction, mais surtout ils seront des humains qui se poseront des questions.
D'accord.
Une fois dans une classe, on m'a demandé la science-fiction, vous écrivez de la science-fiction, mais si un jour vous vous trouvez face à un extraterrestre, votre science-fiction, là, elle tombe par terre, et je leur ai répondu, je lirai la leur. Et là, ça a bien plu aux élèves, parce qu'en disant, oui, voilà. Il y a toujours des rêves plus loin, quoi.
La SF d'extraterrestre, oui, d'accord. SF, ouais. Est-ce que tu as une hypothèse pour le paradoxe de Fermi ou... À toi, ouais. Parce que là, on a déjà eu le filtre anti-spam.
Non, j'aime bien le filtre anti-spam de Jean-Claude.
L'oasis, la prison.
L'oasis. Non, c'est vrai que... Non, il y a beaucoup d'hypothèses possibles. L'hypothèse la plus, j'ai presque envie de dire ennuyeuse, c'est tout simplement que les distances sont telles qu'on peut imaginer en effet qu'il y ait des... partons du principe qu'il y ait une forme de vie extraterrestre ailleurs. Partons même du principe qu'il y ait une forme de vie extraterrestre intelligente ailleurs. Mettons qu'il n'y en ait qu'une seule pour prendre une hypothèse, la plus forte probabilité c'est qu'elle soit temporellement qu'on soit l'un et l'autre inaccessibles l'un à l'autre en fait. C'est-à-dire que c'est tellement lointain que même si on a une forme de vie extraterrestre je ne sais pas à 500 ou 600 années-lumière, on ne la verra jamais. Et peut-être on peut imaginer aussi qu'à l'inverse, cette forme de vie ne nous voit jamais. Donc la possibilité, ce serait un petit peu, si je veux prendre un parallèle, un petit peu, imaginez que vous êtes des groupes d'hommes de Néandertal. C'est pas une insulte, hein, le prenez pas mal. Mais, et que en fait, le prochain groupe, il habite tout simplement à 300 km, quoi. C'est-à-dire que les deux existent, mais en fait, ils ne se croient jamais. Ils ne sont pas le même terrain de chasse. et l'autre il est 3000 km plus loin, et l'autre il est 1500 km plus loin. Donc le risque, c'est en effet, enfin moi une des possibilités pour moi serait celle-là.
Bon, encore l'optimisme de la hard science. Moi je vois ça autrement, parce que je me dis bon, effectivement, tu parles de civilisation terrestre avant, qui est l'éloignement faisait qu'ils ne se rencontraient pas. Mais allons sur cette planète où il y a eu cette société qui a disparu, comme vous le dites, parce que le temps qu'on y aille. Mais les archéologues trouveront des choses. On apprendra des choses de ces gens-là, comme on a appris des civilisations disparues et qu'on en apprend tous les jours encore, des civilisations disparues sur Terre. Donc, alors, c'est pas si ouais, négatif.
L'archéologie fiction, c'est une partie importante de la science-fiction, où le principe, c'est on est tombé sur des ruines extraterrestres ou des objets extraterrestres ou des artefacts extraterrestres et on explore pour essayer d'en tirer quelque chose. Mais les extraterrestres ne sont tout simplement plus là.
Solaris ?
Quoi ? Tu en as plein, hein, de ce côté-là. Jack Dan en a publié des tas. Enfin, je veux dire, il y a Tyrannael. Stalker et tout comme ça aussi, oui. Et ce qui est intéressant dans cette hypothèse, c'est de se rappeler que nous-mêmes, en tant que civilisation, nous sommes capables, en théorie, de capter des signaux venant de l'espace que depuis en gros un demi-siècle. C'est pas beaucoup à l'échelle de notre civilisation. En admettant que notre civilisation survive encore un siècle ou deux, ce qui, quand on voit la manière dont ça se passe, n'est pas totalement garanti. Mais enfin, admettons-le. Et qu'on soit encore capable, pendant ces deux siècles, de continuer à écouter l'espace. D'accord ? Ça fait pas beaucoup. Il faut qu'une espèce soit intelligente dans un rayon de moins de 100 années-lumière et qu'il envoie des messages compréhensibles ou tout au moins captables par nous dans cette fourchette-là. Sinon, on va tout simplement se manquer. Ils vont l'envoyer un peu trop tôt et ça sera des hommes de la Renaissance qui vont pas être capables de l'entendre, tout simplement, de repérer. Ou alors, ils nous enverront des messages, mais on sera mort. Et bon, on répondra pas non plus. Voilà. Donc l'hypothèse de Fermi repose quand même aussi sur le fait qu'il y a effectivement beaucoup de faisceaux, mais dans un espace très vaste et dans un temps très vaste. Donc la possibilité pour que les choses se croisent est extrêmement réduite, en fait. Malheureusement, ça nous renvoie à notre propre solitude, ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre du paradoxe de Fermi, c'est justement faisons attention à nous en tant que civilisation et à notre possibilité de mourir trop rapidement, étouffé par notre propre connerie. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que notre propre connerie est capable de nous tuer beaucoup, beaucoup plus rapidement que n'importe quel extraterrestre.
Moi, je vais laisser le mot à des humains, maintenant. On a eu le temps pour deux petites questions dans la salle, s'il y a des humains, effectivement. Donc, que les humains lèvent la main.
Au début, vous parliez des extraterrestres vous disiez que vous n'aimiez pas les extraterrestres qui étaient trop humanoïdes. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Premier Contact ? Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que sur l'incommunicabilité éventuelle avec des extraterrestres, ce film est excellent. Et je trouve que cette idée de ces grands poulpes, de l'encre, de cette écriture différente, etc. C'est à la limite, enfin, c'est comme des idéogrammes. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce film.
Là, on est justement dans une situation dans laquelle il y a un point commun, c'est-à-dire qu'on a une espèce qui a décidé de communiquer et qui fournit des unités de communication. À partir du moment où on a ça, on peut mettre en face des gens qui sont des linguistes, des proto-linguistes, des neurolinguistes, etc., pour dire j'ai une unité de communication, essayons d'en tirer de l'information. Parce que si ça se trouve, ça aurait été autre chose, ça aurait été des proutes, ça aurait été ce que vous voulez, on n'en tirait rien. Tandis que là, on est parti du principe qu'on a une espèce, certes différente de la nôtre, mais qui encapsule son information sous la forme de quelque chose, de manière répétitive, avec les mêmes règles que nous, c'est-à-dire la même image représente la même chose.
Finalement, c'est peut-être un message publicitaire en disant qu'il y a des soldes sur Altaïr 5.
C'est ça. Voilà. On en revient toujours à la notion qu'on est persuadé que le message puisse être important. Mais essayez d'imaginer un extraterrestre qui reçoit la plaque, vous savez, de voyageurs, avec deux personnes à Japon, en disant « mais ça, c'est absolument répugnant. Qui est-ce qui s'est amusé à faire des graffitis comme ça ?»
Beuh. C'est la reçoit dans la fille.
Oui, voilà. Donc vous imaginez, on n'en fait rien. Qu'est-ce que vous voulez faire de quelque chose comme ça ? Quelle utilité est-ce que ça peut avoir pour vous ? Surtout si vous êtes une espèce spatiale dont vous êtes capable d'aller ramasser tout ce dont vous avez besoin dans les astéroïdes autour de vous ou à la planète à côté. Si vous êtes capable de faire ça, vous n'avez littéralement besoin de rien. L'univers est rempli de tout ce dont vous pouvez avoir besoin de manière absolument vraisemblable. Si on savait exploiter le système solaire, c'est d'ailleurs le réflexe que vous disent les gens qui sont en train de détruire l'écologie, ils disent c'est pas grave, on ira chercher des choses ailleurs. Ah oui, non mais vous avez des civilisations qui vous disent ça, enfin vous avez des continents qui vous disent ça. Et bien à ce moment-là, vous avez effectivement tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez de l'eau, le système solaire comporte, je crois, 1 million de fois la quantité d'eau que vous avez sur la Terre. Sous forme de comètes, sous forme de trucs comme ça. Donc à la limite, vous dites, bon, on pollue l'eau, d'accord, très bien, mais il y en a 1 million de fois plus à l'extérieur, on va chercher. Vous voyez ? Donc vous êtes dans une démarche dans laquelle vous vous dites, pour quelle raison est-ce que je m'intéresserais à un extraterrestre, à part encore une fois la curiosité, qui est une chose importante, et la possibilité de se dire, il y a du fric à faire avec, mais sous forme d'information, sous forme d'art. D'ailleurs, dans un des derniers bouquins que j'ai lu, je crois que c'était publié par la Talente, en fait, les extraterrestres qui débarquent, qui sont sous une forme d'intelligence artificielle, ils disent que la seule chose qui les intéresse sur Terre, ce sont les romans qu'écrivent les écrivains de science-fiction, parce que ça fait tellement rire les autres que ça se vend très bien à l'extérieur. Et là, ils ont capturé une autrice de science-fiction sur Terre, qui commence à leur dire, vous avez entendu parler de royalties, de, je sais pas, de copyright, de droit, je sais pas, ce que vous faites, ça s'appelle du piratage, et on n'aime pas ça, etc. Et la conversation devient vraiment intéressante.
Il y a un phénomène que tu n'as peut-être pas parlé aussi, c'est quand tu dis à quoi va servir l'extraterrestre. Il y a beaucoup de civilisations humaines qui ont été basées sur l'esclavage. Donc ça aussi, ça peut être un thème très intéressant, récupérer des esclaves à bon prix.
Oui, encore que si tu es capable d'avoir un vaisseau spatial qui franchit les distances entre trucs, il y a de fortes chances que tu aies une robotique de bonne qualité. Et de ce côté-là, je veux dire, l'humain moyen, il va faire grève. Donc à la base, on se dit, un robot, au moins, on sera beaucoup plus tranquille. Moi, je suis désolé, si j'ai à choisir entre prendre 50 gilets jaunes et 50 robots, je veux dire, pour de simples raisons d'efficacité, je prendrai des robots. Hein. Ce qui ne veut pas dire que je ne discuterai pas avec les gilets jaunes. Ça veut dire simplement que s'il s'agit de faire le boulot, ben, les robots feront le boulot.
Bon, ben, on va finir sur cette note positive, on va dire, qu'on ne risque pas d'être réduit en esclavage par nos non-voisins extraterrestres. Merci à tous.
Au passage, il y a une nouvelle sur ce thème-là qui a été écrite par Frédéric Brown il y a bien longtemps, où les extraterrestres sur Terre capturent un individu pour savoir qu'est-ce qu'on peut tirer des humains, et ils tombent sur un poivreau irlandais qui est complètement beurré, incapable d'accomplir la tâche la plus simple, qui se nourrit à peu près exclusivement de whisky et qui décide de garder par pitié dans le zoo en disant mais les terriens, il n'y a rien à en faire, on leur fout la paix, quoi. Et le type a sauvé le monde simplement en étant sorti du peuple totalement ravagé. Et la nouvelle est extraordinaire.